Romain Rolland, Pierre et Luce. Amori, Pacis amor Deus, Propers. Durée du récit. Du mercredi soir, 30 janvier, au vendredi saint, 29 mars 1918. Pierre s'engouffra dans le métro. Foule brutale et fiévreuse. Debout, près de l'entrée, serré dans un banc de corps humains et partageant l'air lourd qui passait par leur bouche, il regardait sans les voir les voûtes noires et grondantes sur lesquelles glissaient les prunelles luisantes du train. En son esprit étaient les mêmes ombres, les mêmes lueurs, dures et trépidantes. Étouffant dans le collet de son pardessus relevé, les bras collés au corps et les lèvres serrées, le front moite de sueur et par moments glacé par une bouffée du dehors quand la portière s'ouvrait, il tâchait de ne pas voir. Il tâchait de ne pas respirer. Il tâchait de ne pas penser. Il tâchait de ne pas vivre. Le cœur de ce jeune garçon de 18 ans, presque un enfant encore, était plein d'un obscur désespoir. Au-dessus de lui, au-dessus des ténèbres de ses voûtes, de ce trou de rat où filait le monstre métallique, grouillant de larves humaines, était Paris, la neige, la nuit froide de janvier, le cauchemar de la vie et de la mort, la guerre. La guerre. Il y avait 4 ans qu'elle s'était installée. Elle avait pesé sur son adolescence. Elle l'avait surpris dans cette crise morale où les faibles, inquiets de l'éveil de ses sens, découvrent avec saisissement les forces bestiales, aveugles, écrasantes de la vie dont il est la proie sans avoir demandé à vivre. Et s'il est de nature délicate, de cœur tendre, de corps frêle comme Pierre, il éprouve un dégoût, une horreur qu'il n'ose confier aux autres pour ses brutalités, ses saletés, ces non-sens de la nature féconde et dévorante, cette truie angésine qui mange sa ventrée. Dans tout adolescent de 16 à 18 ans est un peu de l'âme d'Hamlet. Ne lui demandez pas de comprendre la guerre. Bon pour vous, homme rassis. Il a bien assez à faire de comprendre la vie et de lui pardonner. D'habitude, il se terre dans le rêve et dans l'art, jusqu'à ce qu'il soit habitué à son incarnation et que la nymphe ait achevé, de la larve à l'insecte, son angoissant passage. Qu'il a besoin de paix et de recueillement en ces jours d'avril, trouble de la vie mûrissante. Mais on vient le chercher au fond de sa retraite. On l'arrache de l'ombre, tout tendre en sa peau nouvelle. On le jette à l'air cru, dans la dure espèce humaine, dont il doit, sur le champ, épouser sans comprendre expier, les folies et les haines. Pierre était appelé avec ceux de sa classe, les enfants de 18 ans. Dans 6 mois, la patrie avait besoin de sa chair. La guerre la réclamait. 6 mois de répit. 6 mois. Si du moins, d'ici là, on pouvait ne pas penser, rester dans ce souterrain, ne plus revoir le jour cruel. Il s'enfonça dans l'ombre avec le train qui fuyait et il ferma les yeux. Lorsqu'il les rouvrit, à quelques pas de lui, séparé par 2 corps étrangers, était une jeune fille qui venait de monter. D'abord, il ne vit d'elle que le délicat profil, sous l'ombre du chapeau, une boucle blonde sur la joue un peu maigre, une lumière posée sur la suave pommette, la ligne fine du nez et de la lèvre retroussée, et la bouche entrouverte qui palpitait encore de la course pressée. Par la porte de ses yeux, en son cœur, elle entra. Elle entra tout entière, et la porte se referma. Les bruits du dehors se turent. Le silence. La paix. Elle était là. Elle ne le regardait pas. Elle ne savait même pas encore qu'il existât. Et elle était en lui. Il tenait son image, muette, blottie en ses bras, et n'osait respirer de peur que son souffle ne l'effleurât. À la station suivante, une bousculade. Les gens se ruaient en criant dans le wagon déjà plein. Pierre se trouva poussé, porté par la vague humaine. Au-dessus de la voûte, sur la ville, là-haut, des détonations sourdes. Le train repartit. À cet instant, un homme affolé qui se couvrait le visage de ses mains descendait l'escalier de la station et vint rouler en bas. On eut le temps de voir le sang qui coulait au travers de ses doigts. Le tunnel et la nuit, de nouveau. Dans le wagon, des cris d'effroi. « Les Gothas sont venus !» Dans l'émotion commune, qui fondait en un seul ses corps entassés, sa main avait saisi la main qui le frôlait, et quand il leva les yeux, il vit que c'était elle. Elle ne se dégagea point. À la pression de ses doigts, les doigts répondaient, émus, un peu crispés, et puis s'abandonnèrent, doux, brûlants, sans bouger. Ils restèrent ainsi, dans l'ombre protectrice, leurs mains comme deux oiseaux blottis dans le même nid. Et le sang de leur cœur coulait en un seul flot par la chaleur des paumes. Ils ne se dirent pas un mot, ils ne firent pas un geste. Sa bouche effleurait presque la boucle sur la joue et le bout de l'oreille. Elle ne le regardait pas. À deux stations de là, elle se délia de lui qui ne la retenait pas, glissa entre les corps, partit sans l'avoir vue. Quand elle eut disparu, il pensa à la suivre. Trop tard. Le train roulait. À l'arrêt qui suivit, il remonta à la surface. Il retrouva l'air nocturne, le frôlement invisible de quelques plumes de neige, et la ville, effrayée, amusée de sa peur, sur laquelle, très haut, planaient les oiseaux guerriers. Mais il ne voyait rien que celle qui était en lui. Et il rentra, tenant la main de l'inconnu. Pierre Aubier habitait chez ses parents, près du square de Cluny. Son père était magistrat. Son frère, plus âgé de 6 ans, s'était engagé au début de la guerre. Bonne famille bourgeoise, bien française, braves gens affectueux et humains, n'ayant jamais osé penser par eux-mêmes, et très probablement ne se doutant même pas de ce que cela pouvait être. Profondément honnête, ayant une haute idée des devoirs de sa charge, le président Aubier eut rejeté, indigné, comme la suprême injure, le soupçon que ses jugements pussent être dictés par d'autres considérations que celles de l'équité et la voix de sa conscience. Mais la voix de sa conscience n'avait jamais parlé, disons mieux chuchoté, contre le gouvernement. Elle était née fonctionnaire. Elle pensait en fonction de l'État, variable, mais infaillible. Les pouvoirs établis se revêtaient pour lui d'une évidence sacrée. Il admirait sincèrement les âmes de bronze, les grands magistrats libres et inflexibles du passé, et peut-être, secrètement, se croyait-il de leur lignée. C'était un tout petit Michel de l'Hôpital, sur qui avait passé un siècle de servitude républicaine. Quant à Madame Aubier, elle était aussi bonne chrétienne que son mari était bon républicain. Aussi sincèrement, honnêtement qu'il se faisait l'instrument docile du pouvoir contre toute liberté qui ne fût pas officielle, elle mêlait ses prières, en toute pureté de cœur, aux vœux homicides que formaient pour la guerre, en chaque pays d'Europe, les prêtres catholiques, les pasteurs protestants, les rabbins et les popes, les feuilles et les gens bien pensants de ce temps. Et tous deux, père et mère, adoraient leurs enfants, n'avaient, en vrai français, que pour eux d'affection profonde, essentielle, leur eussent tout sacrifié, et pour faire comme les autres, les sacrifiaient sans hésiter. À qui? Au Dieu inconnu. En tout temps, Abraham a mené Isaac au bûcher, et sa glorieuse folie reste encore un exemple pour la pauvre humanité. À ce foyer de famille, comme c'est le cas souvent, l'affection était grande et l'intimité nulle. Comment les pensées pourraient-elles se communiquer librement de l'un à l'autre lorsque chacun évite de voir au fond de la sienne? Quoi qu'on sente, on sait qu'il faut réserver certains dogmes, et si c'est une gêne déjà quand les dogmes sont assez discrets pour rester dans leurs limites tracées, c'était le cas, en somme, pour ceux de l'au-delà. Que dire lorsqu'ils prétendent se mêler à la vie, la régir tout entière, ainsi que font nos dogmes laïques et obligatoires? Allez donc oublier le dogme de la patrie. La nouvelle religion faisait rétrograder à l'Ancien Testament. Elle ne se contentait pas de dévotion des lèvres et d'innocentes pratiques, hygiéniques, ridicules, comme la confession, le maigre du vendredi, le repos du dimanche, qui avaient excité la verve de nos philosophes au temps où le peuple était libre, sous les rois. Elle voulait tout. Elle ne se satisfaisait pas de moins. L'homme tout entier, son corps, son sang, sa vie et sa pensée. Son sang surtout. Depuis les Aztèques du Mexique, jamais la divinité ne s'était ainsi gorgée. Il serait profondément injuste de dire que les croyants n'en souffraient pas. Ils souffraient, mais croyaient. Ô mes pauvres frères hommes, pour qui la souffrance même est une preuve du divin. Monsieur et Madame Aubier souffraient comme les autres, et comme les autres, adoraient. Mais on ne pouvait demander à un adolescent cette abnégation du cœur, des sens et du bon sens. Pierre eût voulu comprendre au moins ce qui l'opprimait. Que de questions le brûlaient, qu'il ne pouvait pas dire. Car le premier mot de toutes était « Mais si je n'y crois pas ?» Un blasphème, déjà. Non, il ne pouvait parler. Ils l'eussent regardé avec une stupeur effrayée, indignée, avec peine, avec honte. Et comme il était à cet âge plastique, où l'âme, d'écorce trop tendre, se ride au moindre souffle qui vienne du dehors, et sous leurs doigts furtifs se modèle en frémissant, il se sentait d'avance lui-même triste et honteux. Ah, comme ils croyaient tous! Mais est-ce qu'ils croyaient tous? Comment faisaient-ils donc? On osait le demander. À ne pas croire, seul, au milieu de tous qui croient, on est comme quelqu'un à qui manque un organe, peut-être superflu, mais que tous les autres ont, et rougissant, on cache aux yeux sa nudité. Le seul qui put comprendre les angoisses du jeune garçon était son frère aîné. Pierre avait pour Philippe cette adoration qu'ont souvent les petits, mais qu'ils cachent jalousement, pour l'aîné, frère ou sœur. Compagnon étranger, parfois même vision d'une heure disparue, qui réalise à leurs yeux le rêve tout ensemble de ce qu'ils voudraient être et de ce qu'ils voudraient aimer, ardeurs chastes et troubles de l'avenir au courant mêlé. Le grand frère s'était aperçu de ce naïf hommage, et il en était flatté. Naguère, il tâchait de lire dans le cœur du petit et le lui expliquait avec des ménagements. Car bien que plus robuste, il était comme lui de cette pâte fine qui, chez les meilleurs hommes, garde un peu de la femme, et qui n'en rougit pas. Mais la guerre était venue et l'avait arraché à sa vie de travail, à ses études de sciences, à ses rêves de 20 ans et à l'intimité avec le jeune frère. Il avait tout laissé, dans l'idéalisme enivré du début, comme un grand oiseau fou qui se lance dans l'espace, avec l'illusion héroïque et absurde que son bec et ses serres mettront fin à la guerre et restaureront sur Terre le règne de la paix. Depuis, le grand oiseau était 2 ou 3 fois rentré au nid. À chaque fois, hélas, un peu plus déplumé. Il était revenu de bien des illusions, mais il s'en trouvait trop mortifié pour le dire. Il avait honte d'y avoir cru. Sottise de n'avoir pas su voir la vie comme elle est. Il s'acharnait maintenant à la désenchanter, et quelle qu'elle fût, stoïque, à l'accepter. Il ne se châtiait pas seulement lui-même. Une souffrance mauvaise le poussait à châtier ses illusions dans le cœur du jeune frère, où il les retrouvait. Au premier retour, quand Pierre était accouru, brûlant de son âme emmurée, tout de suite il fut glacé par l'accueil de l'aîné, certes affectueux toujours, mais avec, dans le ton, je ne sais quelle âpre ironie. Les questions qui se pressaient sur ses lèvres furent à l'instant refoulées. Philippe les voyait venir, et d'un mot, d'un regard, les fauchait. Après 2 ou 3 tentatives, Pierre, le cœur serré, se replia. Il ne reconnaissait plus son frère. L'autre le reconnaissait trop. Il reconnaissait en lui ce que naguère il était et ce qu'il ne pouvait plus être. Il le lui faisait payer. Il en avait regret après, mais il n'en montrait rien et il recommençait. Tous deux souffraient, et par un malentendu trop fréquent, leur souffrance si proche qui aurait dû les unir les éloignait. La seule différence entre eux était que l'aîné la savait proche, et que Pierre se croyait seul avec elle, sans nul à qui s'ouvrir. Que ne se tournait-il donc vers ceux de son âge, ses compagnons d'école? Il eût semblé que ces adolescents auraient dû se resserrer et s'être mutuellement un appui. Mais il n'en était rien. Une triste fatalité les tenait au contraire épars, disséminés en petits groupes, et même à l'intérieur de ces groupes minuscules, distants et réservés. Les plus vulgaires avaient, les yeux fermés, plongé tête la première dans le courant guerrier. Le plus grand nombre s'en écartait, et ils ne se sentaient aucune attache avec les générations qui les avaient précédés. Ils ne partageaient en rien leurs passions, leurs espoirs et leurs haines. Ils assistaient à l'action frénétique, comme des hommes à jeun regardent ceux qui ont bu. Mais que pouvait-il contre elle? Beaucoup avaient fondé de petites revues dont la vie éphémère s'éteignait, au premier numéro, faute d'air. La censure faisait le vide. Toute la pensée de France était sous la cloche pneumatique. Les plus distingués d'entre ces jeunes gens, trop faibles pour se révolter et trop fiers pour se plaindre, se savaient livrés d'avance au couteau de la guerre. En attendant leur tour à l'abattoir, ils regardaient et jugeaient en silence, chacun pour soi, avec un peu de mépris et beaucoup d'ironie. Par réaction dédaigneuse contre la mentalité du troupeau, ils s'étaient rejetés dans une sorte d'égotisme intellectuel et artistique, un sensualisme idéaliste, où le moi pourchassé revendiquait ses droits contre la communion humaine. Dérisoire communion, qui ne se manifestait à ces adolescents que sous les espèces du meurtre accompli et subi en commun. Une expérience précoce avait flétri leurs illusions. Ils avaient vu ce que valaient ces illusions chez leurs aînés, et qu'eux qui n'y croyaient pas, ils les payaient de leur vie. Leur confiance était atteinte en ceux-mêmes de leur âge, dans l'homme en général. Au reste, il en coûtait de se confier en ce temps. Chaque jour apprenait quelques dénonciations de pensées, d'entretiens intimes, par un mouchard patriotique dont le pouvoir honorait et stimulait le zèle. Aussi, ces jeunes gens, par découragement, par dédain, par prudence, par sentiment stoïque de leur solitude d'esprit, se livraient peu les uns aux autres. Pierre ne pouvait trouver chez eux l'Horatio que cherchent les petits Hamlets de 18 ans. S'il avait horreur d'aliéner sa pensée à l'opinion publique, cette fille publique, il avait besoin de l'unir librement à des âmes de son choix. Il était trop tendre pour pouvoir se contenter de soi. Il souffrait de la souffrance universelle. Elle l'écrasait par sa somme de douleurs qu'il s'exagérait. Car si l'humanité la supporte, malgré tout, c'est qu'elle a le cuir plus dur que n'est la peau nouvelle d'un frêle adolescent. Mais ce qu'il ne s'exagérait pas, et ce qui l'accablait encore plus que la souffrance du monde, c'en était l'imbécilité. Ce n'est rien de souffrir. Ce n'est rien de mourir, si l'on en voit le sens. Le sacrifice est bien, quand on comprend pourquoi. Mais quel est le sens du monde et de ses déchirements pour un adolescent? En quoi, s'il est sincère et saint, peut-il s'intéresser à la grossière mêlée des nations affrontées, comme des béliers stupides au-dessus d'un abîme où ils vont tous rouler? La route était pourtant assez large pour tous. Pourquoi donc cette rage de se détruire soi-même? Pourquoi ces patries d'orgueil, ces états de rapine, ces peuples auxquels on apprend le meurtre comme un devoir? Mais pourquoi la tuerie partout entre les êtres? Ce monde qui s'entremange? Pourquoi le cauchemar de cette chaîne monstrueuse et sans fin de la vie dont chacun des anneaux enfonce la mâchoire dans la nuque de l'autre, se repaît de sa chair, jouit de sa douleur et vit de sa mort? Pourquoi la lutte et pourquoi la douleur? Pourquoi la mort? Pourquoi la vie? Pourquoi? Pourquoi? Ce soir, quand l'enfant rentra, le pourquoi s'était tu.